J'espère que votre radio, et j'en suis convaincu, fait du bien.
Je trouve qu'il y a une équipe à Radio Présence qui est dynamique, qui est sympathique comme tout.
Je dirais simplement que c'est une radio très importante de la région et très enrichissante pour énormément de personnes, et que c'est très important de la soutenir puisque voilà, elle est tout simplement géniale.
Parce que ça fait des années que j'écoute Radio Présence, que vous m'avez d'ailleurs aidé à sortir de l'abîme, et je souhaite que cette radio continue à vivre.
J'ai cette image aussi d'une radio qui diffuse de l'espérance, ce je ne sais quoi qui change le monde. Ça ne se touche pas, c'est comme une onde, un parfum. On ne le voit pas, on ne l'attrape pas, et pourtant ça change tout.
Les 25 et 26 novembre, ne ratez pas le radiodon de Radio Présence.
Présence, retrouvons-nous.
Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le christianisme, pour beaucoup, ce mot résonne davantage avec le mot « église » qu'avec celui de Jésus ou des évangiles. Le christianisme serait devenu dans l'opinion publique une institution plus qu'une réalité spirituelle. Pourtant, depuis les débuts de l'évangile, existe une veine plus spirituelle, elle, le christianisme intérieur, une sorte d'école spirituelle commune à toutes les confessions chrétiennes, privilégiant la transformation intérieure du croyant. Voilà pour cette émission donc sur le christianisme intérieur. Je reçois ce matin Gérard Fomerand. Vous êtes donc historien du christianisme et conférencier. Bonjour déjà.
Bonjour à vous.
Voilà, vous publiez donc récemment aux éditions Fidélité un ouvrage intitulé « Le christianisme intérieur, une voie nouvelle, point d'interrogation ». Et vous êtes l'auteur d'autres ouvrages, comme « La mémoire vive des mystiques chrétiens » publié en 2012 aux éditions L'Harmattan, et « Renaissance du christianisme, le retour aux origines » dans la même maison d'édition que cet ouvrage chez Fidélité. Donc, le christianisme intérieur. Alors, je voulais, avant qu'on parle davantage de ce christianisme intérieur, qu'on prenne le temps, peut-être en introduction, que l'on parle des 500 ans de la Réforme et du voyage du pape François donc en Suède. Alors, vous ne parlez pas du voyage du pape François en Suède, mais vous citez une intervention devant une délégation d'évêques luthériens allemands le 18 décembre 2014, et vous vous réjouissez de ces ponts, en fait, de cet œcuménisme en action, éclatant, on va dire, à la face de tous les chrétiens et du monde. Pourquoi est-ce que ça serait important pour vous d'en parler avant de parler du christianisme intérieur?
C'est un événement, je dirais, fondateur, fondamental, car il est révélateur d'un changement radical au sein même du christianisme, dans ses fractions internes. À savoir que cette rupture de la Réforme de 1517 n'est plus une rupture, mais une passerelle. N'est plus une cassure, mais une retrouvaille. Donc le pape François, en recevant des évêques luthériens, qui auraient pu, pour les 500e anniversaire de la Réforme, 1517, se lamenter de cette cassure, au contraire, s'en réjouit. Et nous avons là, je dirais, tout le paradoxe de notre époque, qui est le suivant. À travers des ruptures en cascade, nous avons été jusqu'au bout d'une logique de fracture qui devient une logique de retrouvailles, de réconciliation, de pacification et sans doute d'un retour aux origines.
Alors le christianisme intérieur, on va en parler évidemment tout au long de cette émission. Pour commencer, comment est-ce que vous définiriez le christianisme intérieur? Qu'est-ce que vous en diriez pour le grand public? Comment vous expliciteriez cette notion?
Le terme de christianisme intérieur est à la fois extrêmement nouveau et extrêmement ancien. En fait, il remonte à l'apôtre Paul, qui, dès l'origine du christianisme, nous parlait de l'homme intérieur. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, 16, l'apôtre Paul nous dit cette phrase très forte: « Alors que l'homme extérieur s'en va en ruine, l'homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. » Et cet homme intérieur, dont parle l'apôtre Paul, n'apparaît pas comme ça par hasard chez Paul. En fait, il ne fait que suivre une très longue tradition hébraïque, qui est la tradition du cœur profond. Le cœur, dans la tradition hébraïque, n'a pas le sens, d'ailleurs, du cœur physique, physiologique. C'est le cœur de l'âme, c'est le cœur de la rencontre, c'est le cœur de l'espace de la rencontre entre le divin et l'humain. Et en ce sens, l'apôtre Paul ne fait que suivre une très ancienne tradition du cœur intérieur de l'homme qui est image de Dieu, comme nous le dit dès le départ la Genèse. Donc ce christianisme intérieur plonge ses racines dans à la fois les origines apostoliques, mais également la mémoire hébraïque. C'est la mémoire de l'homme intérieur, qui n'a jamais été perdu de vue par l'ensemble des traditions chrétiennes, mais qui a été, je dirais, un petit peu oublié, voire mis de côté, sous le poids institutionnel des histoires d'Église, que tout le monde connaît, avec ses grandeurs, mais aussi ses faiblesses. Mais le terme de christianisme intérieur lui-même apparaît dans l'héritage de Paul et donc dans l'héritage hébraïque, chez Jean de Bernière. Nous sommes là au XVIIe. Jean de Bernière était un...
Vous dire le terme, l'intitulé exact?
Non, pas christianisme intérieur. Lui parlait de chrétien intérieur.
Chrétien intérieur, pardon.
C'est pas lui qui en parlait, c'était en fait ses disciples. Car Jean de Bernière n'a rien laissé au plan d'un enseignement systématique. Il n'a laissé que des notes qui ont été regroupées à sa mort par ses disciples, qui a été ensuite publié et qui a été le grand succès éditorial du XVIIe, puisqu'il a été vendu à plus de 30 000 exemplaires.
Alors dites-nous qui était cet homme peut-être.
Alors Jean de Bernière était un très haut fonctionnaire, c'était en fait le trésorier de Louis XIV. Mais et c'est un classique dans les itinéraires des spirituels chrétiens, a un jour une rupture, une cassure, un retournement, appelez ça comme vous voulez, mais une remise en cause radicale de ce qu'il a été. Et là, il quitte tout, comme François d'Assise, comme Antoine le Grand, comme la quasi-totalité des grands spirituels chrétiens.
Il n'était pas chrétien.
Non, il était catholique, mais je dirais catholique sociologique.
D'accord.
Comme le sont souvent les chrétiens, à savoir qu'ils se rattachaient à des corpus, à des histoires, à des institutions d'église. Quand il s'est rendu compte que le christianisme allait bien au-delà, il a tout quitté. Il est devenu pas ermite, mais il a fini sa vie en semi-érémitisme près d'une église de Caen, qui d'ailleurs garde son tombeau. Et ses disciples, donc à sa mort, ont regroupé ses écrits, qu'on a appelé donc le chrétien intérieur. Et ce terme revient maintenant. Alors, je ne suis pas le seul à l'évoquer, mais c'est toute une tendance du retour à l'origine oubliée de l'homme intérieur, qui lui, par contre, est constant. Le terme d'homme intérieur est constant dans l'histoire. Il appartient à Paul, il appartient à la mémoire hébraïque, et il a toujours été présent.
Alors, avant que vous nous expliquiez plus avant, j'ai noté un passage comme ça, c'est au début de votre ouvrage, vous dites actuellement toutes les églises chrétiennes sont confrontées à une double tendance, donc vous êtes de confession orthodoxe.
Tout à fait.
Et on sait que chez les orthodoxes, c'est aussi une tentation, soit de s'en tenir à des formes et des théologies identitaires et codifiées d'un christianisme peu ou prou institutionnalisé, dites-vous, soit de redécouvrir, je vais y arriver, les trésors cachés de l'intériorité. Qu'est-ce que vous diriez pour vous qui êtes orthodoxe? Est-ce que nous qui connaissons moins peut-être ce monde-là, c'est une réelle tentation dans l'orthodoxie aujourd'hui?
L'orthodoxie est à la fois une et multiple, donc elle est comme toutes les églises un peu double, à savoir qu'elle a une très forte expérience de la transformation intérieure qui se rattache au Père du désert, qui remonte lui aussi au 2e, 3e siècle, qui remonte pratiquement à l'époque apostolique.
Alors les Pères du désert, pardon, je fais une précision pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers, c'est donc ces premiers moines qui sont allés vivre dans les déserts, soit en Judée, soit en Égypte, et qui sont un peu les pères du monachisme contemporain. Voilà.
Tout à fait. Alors les premiers moines apparaissent autour de l'année, de l'an 250 avec Antoine le Grand, qui, comme Jean de Bernière, comme François d'Assise, va avoir un retournement en passant devant une église, entendre un verset de l'évangile, et il était, je dirais, un bon paysan, bien installé, bien à l'aise, et il va tout quitter lui aussi, et il va partir d'abord à la périphérie de la ville, puis ensuite il va s'enfoncer dans les déserts de Haute-Égypte.
Donc, pardon, je revenais sur ma question sur l'orthodoxie. En tout cas, pour vous, chez les chrétiens, il y a aujourd'hui cette tentation identitaire, et vous dites la réponse, c'est l'homme intérieur. C'est ce christianisme intérieur.
Alors, toutes les églises sont tentées par les replis identitaires, quelle que soit la forme de ce repli, parce que toutes les églises ont une histoire, donc des identités. Alors, des identités, c'est-à-dire quelque part des moi, ou, en langage de Maurice Zindel, je dirais des surmoi biologiques. Et le christianisme intérieur, c'est finalement le fil invisible qui relie, au-delà des moi ou des surmoi, l'ensemble des chrétiens, c'est-à-dire quelle est la source commune. D'abord, bien sûr, la source apostolique, la source hébraïque, mais surtout quelle est l'expérience partagée, initiale, originelle, primordial. Et c'est une expérience de la transformation intérieure, que les orientaux, et ça c'est très fort dans le monde orthodoxe, appellent la déification. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu.
Alors, cet homme intérieur, vous le caractérisez, en tout cas, c'est comme si vous nous donniez quelques grandes caractéristiques ou quelques grandes étapes. Vous dites, la première chose de l'homme intérieur, c'est un homme de silence. Alors, ceux qui parmi nos auditeurs sont des priants, ils comprendront. Est-ce que vous pouvez expliciter cette première caractéristique que vous donnez?
Alors, dès l'origine, donc dès les pères du désert, la pratique du silence, la pratique de la méditation silencieuse, a été prioritaire et primordial. Le silence était perçu comme l'antichambre de la rencontre avec l'au-delà de nous. Donc, ce qui était demandé à ces moines des premiers siècles, du 3e et 4e siècle, c'était de se mettre dans le silence. Et ce silence originel est d'autant plus actuel que nous avons besoin de silence. Nous sommes une société du bruit, de la recherche, de la virtualité technologique, de l'image, du smartphone, etc., etc., etc. Ce rappel du silence est un rappel déjà que fait le psalmiste lui-même. Dès le psaume 4, par exemple, parle en ton cœur, sur ta couche, fais silence. Verset du psaume 4. Le silence est une étape de l'entrée dans ce que les orientaux appellent, je le répète, la déification.
C'est une étape obligée, c'est-à-dire que c'est comme une porte d'entrée, en fait, à vous entendre.
C'est une étape obligée, c'est pas une étape obligatoire, car dès que l'on met obligation, il y a un souci, je dirais, de normalisation. On n'est pas là, on est dans une expérience spirituelle.
Non, mais pas d'homme intérieur sans silence, c'est ça que vous voulez dire?
Absolument, absolument.
Alors l'autre, enfin parmi les caractéristiques aussi, vous citez l'homme du rythme. Alors on pourrait se dire c'est paradoxal, parce qu'on imagine souvent que le silence va avec une forme de passivité, ou de tranquillité plutôt. Qu'est-ce que vous voulez dire par cet homme du rythme? Et là vous citez entre autres les expériences des monastiques.
Enfin, tout à fait, alors le rythme c'est la rigula. La règle, ce qui est la règle, c'est pas une règle, ce n'est pas une norme, c'est une régula, c'est-à-dire une façon de rythmer le temps. Alors dans la tradition hébraïque et dans la tradition chrétienne, on le rythme de différentes façons. On peut le rythmer deux fois, on peut le rythmer trois fois, et parfois même on peut le rythmer sept fois. Dans la tradition, disons hébraïque et chrétienne. Et on va retrouver à l'heure d'aujourd'hui cette pratique de la régula, du rythme, dans les résurgences d'inspiration monastique qui se font dans toutes les mouvances de la tradition chrétienne, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante ou qu'elle soit orthodoxe.
Et quelle est son importance? C'est-à-dire en quoi?
Elle donne des butoirs temporels dans le déroulé de la journée. À savoir que l'homme est un microcosme qui reflète un macrocosme. À savoir que l'homme microcosme reflète le cycle du soleil. Il se lève à l'aube et sa première parole est une parole de prière. Ensuite, il va suivre le déroulé du temps et on va retrouver en fait les temps de l'office monastique, qui en général sont de 7 temps, mais qui peuvent être de 2 temps ou de 3 temps. Mais on va en général trouver un ternaire, matin, midi et soir. À savoir, pendant ce temps-là, on arrête le temps. On arrête le temps et on se met en position de prière, donc en position de silence. Ensuite, cette pratique du silence, elle est extrêmement diversifiée au plan, je dirais, des méthodes d'oraison.
Alors on continue donc sur ce christianisme intérieur. Donc évidemment il faut surtout lire votre ouvrage. Toujours est-il que vous donnez quelques autres caractéristiques et puis vous faites tout un moment. Vous dites évidemment que c'est quelqu'un qui médite l'Écriture, mais plus que ça, qui fait pas seulement que la lire, mais qui essaye en fait de se mettre à l'école cette Écriture, on va dire en acte, et qui essaye d'incarner cette Écriture. Alors là on a envie de dire en même temps c'est tout chrétien, normalement, essaye de vivre ça à un moment où, quand il lit l'Évangile, c'est ce qu'il devrait vivre. Néanmoins, il est bon de le rappeler.
Non seulement il est bon, mais les catholiques utilisent ce terme qui est très fort, de manducation de l'Écriture. Absorber l'Écriture, la somatiser pour la vivre. Et c'est là que le débat entre intériorité et extériorité n'a pas d'objet. Car en manduquant l'Écriture, comme le dit la tradition catholique, on ne peut que la vivre. Et en général, les plus grands actifs sont de très grands mystiques. À commencer par les gens que vous connaissez, bien connus du type du fondateur d'Emmaüs, etc., etc., qui 6 mois par an partaient au désert. Sœur Emmanuelle, c'est pareil. C'est une constante.
Mère Teresa, encore oui,
bien sûr. Et je pense que le pape François, avec toutes les contraintes de la charge qu'il a, est aussi un mystique.
On sait qu'il se lève très tôt et qu'il prie longuement le matin.
Et ce qu'on sait moins, c'est que c'est un spécialiste, en tant qu'ange jésuite, des mystiques français du 17e. Ça, on le sait moins.
Ce qui vous donne raison, d'une certaine manière, puisqu'en tout cas, vous en parlez dans votre ouvrage. Alors donc, vous dites donc cette importance des écritures. Alors après, vous citez toute une série de caractéristiques qui peuvent aider tout à chacun à vouloir aussi se mettre sur ce chemin. C'est un homme de paix, c'est un homme plein de bienveillance, de compassion, qui maîtrise ses pensées, etc. Donc je vais vous laisser peut-être commenter, mais il y a aussi une caractéristique que vous citez, c'est quelqu'un qui a une forme de grande liberté intérieure, quelque chose qu'il faut dire. Vous dites c'est la liberté de l'esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cette liberté intérieure? Est-ce que vous pourriez éclairer ce chapitre?
L'apôtre Paul nous répond, je renvoie à des langages originels, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Et ça aussi c'est une parole première du christianisme. Donc quand on étudie, je dirais, là je parle en tant qu'historien des spirituels chrétiens, et notamment du premier livre que j'ai fait sur les spirituels chrétiens, on constate des marqueurs, des constantes, qui par-delà les divergences ecclésiales reviennent tout le temps. Quand nous soyons chez les protestants, chez les orthodoxes, chez les catholiques, on trouve toujours ces marqueurs que je nomme bienveillance, compassion, pacification, paix intérieure, paix extérieure. Bien sûr, dans des héritages ecclésiaux différents, mais qui se traduisent tous par la même réalité. La bienveillance. Une bienveillance, une ouverture, une écoute, une empathie, une compassion universelle qui va, et qui remonte aussi à l'origine. Isaac de le Syrien, qui est un des pères du désert, nous disait dans ses textes que il était tellement pénétré d'amour pour la création qu'il venait à aimer les serpents. Et ça, nous sommes dans le langage des pères du désert.
Voilà, image qu'on peut retrouver avec un saint François d'Assise ou autre. Pour finir ce chapitre, je voulais vous demander, est-ce que vous devriez citer quelques noms qui, pour vous, aujourd'hui, incarnent un peu ce christianisme intérieur? En tout cas, vous citez quelques auteurs, je ne sais pas s'ils incarnent, vous citez entre autres Hansel Grun. Est-ce que, je ne sais pas, il est dans les figures aujourd'hui du protestantisme, du catholicisme, de l'orthodoxie.
Alors, il est toujours un peu délicat.
Tous les inconnus, évidemment.
Il est un peu délicat de citer des gens que je connais. Nous ne sommes pas là pour faire de l'autopromotion.
Citer les gens connus, alors.
Alors, bien sûr, vous venez de parler d'Hansel Grun, bien sûr.
Hansel Grun, il faut rappeler, donc.
C'est un bénédictin. Un Allemand qui est à la charnière, je dirais, du thérapeutique et du spirituel. Mais on va prendre Lita Bassé, par exemple. Lita Bassé.
Protestante.
Donc, on est dans la logique protestante, mais quelque part, est-elle protestante, est-elle orthodoxe? C'est très difficile à dire. Les frontières sont poreuses. Mais où est-elle exactement du point de vue de l'incarnation? Elle est à la fois dans le théologique, le spirituel, mais également la psychothérapie. Et ses livres en sont un bouleversant exemple, notamment son livre sur la mort de son fils.
Sur la joie imprenable.
La joie imprenable, sur ce lien qui ne meurt jamais, et encore plus, aimer sans dévorer. Je le conseille à tous les couples, aimer sans dévorer.
En tout cas, vous, votre ouvrage, c'est Le christianisme intérieur, une voie nouvelle, point d'interrogation, aux éditions Fidélité. Donc Gérard Fomerand, on fait une première pause musicale, et puis on vous retrouve tout de suite après pour nous parler de ce christianisme intérieur.
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Vivante Église sur le christianisme intérieur, à partir d'un ouvrage de Gérard Fomerand, donc intitulé Le christianisme intérieur, une voie nouvelle aux éditions Fidélité. Je rappelle que Gérard Fomerand, qui est avec nous ce matin, est historien du christianisme et conférencier, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-là qui vient de paraître. Alors, ce christianisme intérieur, ce chrétien intérieur, c'est une tradition, vous disiez, en fait, qui est commune à toutes les grandes confessions chrétiennes. Je voudrais un petit peu détailler avec vous, côté catholique, protestant et tradition orientale, est-ce que l'on peut en dire. Commençons par les catholiques, et puis ce sera l'occasion pour nous aussi de voir quelques-unes des grandes figures, de les redécouvrir. Côté catholique, vous faites un petit historique au début de cette partie. Vous laissez entendre dans votre ouvrage que le christianisme intérieur, c'était la réalité des premiers siècles, et puis après que l'Église aurait basculé dans une autre réalité. Alors qu'est-ce que vous entendez par là, et qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça ?
Alors, comment dire ? C'est complexe, mais il est sûr que l'Église d'Occident, donc l'Église catholique romaine, a le double témoignage d'une permanence de la transmission, d'une permanence de l'expérience spirituelle, car il y a une chaîne d'or ininterrompue au sein du catholicisme latin, entre l'origine et maintenant de grands spirituels chrétiens, qui ont toujours été là, du début à nos jours, en passant par le Moyen-Âge. Nous parlerons de François d'Assise, nous parlerons de Maurice Zindel, et nous pouvons parler également des premiers siècles de l'Église. Il y a donc ce paradoxe d'une Église qui assure la mémoire, assure aussi l'existence de grands saints ou de grandes saintes, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, etc., mais qui en même temps a eu une sorte d'itinérance temporelle qui est son marqueur historique et qui s'explique tout à fait, tout simplement parce que l'Église romaine a comblé le vide qu'a laissé l'Empire romain en disparaissant. Donc il y a eu une sorte, je dirais, de dérive ou d'évolution temporalisante ou temporelle du christianisme occidental, mais ce qui n'a pas empêché la continuité d'une chaîne de l'expérience spirituelle. Et ça, on l'a souvent oublié, mais elle a toujours été là. On ne peut pas faire à l'Église catholique le procès d'une rupture de la chaîne spirituelle, car elle a toujours été là.
Mais on vous sent pas, enfin, c'est pas l'objet de l'émission, mais quand même, c'est intéressant, parce que, enfin, on peut parler assez librement à cette antenne. On vous sent pas très à l'aise, justement, avec cette deuxième réalité. On a l'impression que c'est une réalité qui fait obstacle à ce christianisme intérieur, à vous
dire. Tout à fait.
C'est votre sentiment, en tout cas.
Ah ben c'est à la fois un sentiment et un constat que je suis loin d'être le seul à faire. Comme nous prenons les propos de Jacques Ellul, qui est un contemporain, il est mort en 1993, qui est à la fois théologien, philosophe et professeur de droit. C'était mon professeur d'histoire du droit d'ailleurs. Et Jacques Ellul a publié un ouvrage fascinant qui s'appelle La subversion du christianisme. La subversion du christianisme. Cette subversion, on peut la dater. Elle peut être datée de 313, puis ensuite de 385, et là j'emploie un langage d'historien, à savoir à partir du moment où le christianisme devient église d'État.
Donc 313, c'est l'édit de Constantin.
Et 385, l'édit de Théodose, qui transforme le christianisme en église d'État. Donc répressive. 385, les premiers hérétiques sont décapités. L'évêque Priscillien d'Avila. C'est intéressant de constater la dérive temporelle du pouvoir institué, de la confusion des pouvoirs spirituels et temporels. Mais ça s'explique historiquement par, ensuite, la disparition de l'Empire romain, et la nature ayant horreur du vide, l'Église catholique romaine a rempli l'espace qui était devenu vide.
Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, peut-être on imagine à vous entendre que vous en connaissez des catholiques, ou en tout cas vous suivez l'actualité, vous avez toujours ce sentiment à l'égard de l'Église catholique ?
Ah ben c'est un marqueur de l'Église catholique, c'est pas un sentiment subjectif, c'est un marqueur.
Non, ce sentiment que ça fait obstacle à cette réalité, on va dire, étatique, fait obstacle à ce christianisme intérieur. Ben,
que le Vatican soit un État est déjà une question, sinon un problème. Est-ce que le Vatican a à être un État ? C'est avant tout un cœur, et non pas un État.
Voilà, donc on l'aura compris, en tout cas vous avez des réserves là-dessus. Alors en tout cas, donc vous dites que c'est une réalité contrastée, comme vous l'avez précisé au début de votre réponse, et que donc il a toujours existé, une longue tradition spirituelle. On se proposait donc de parcourir quelques-unes de ces figures. Alors dans votre ouvrage, évidemment, vous citez pas toutes les figures, j'imagine qu'on peut citer, mais en tout cas vous citez aussi des figures des premiers siècles, hein. Je pense entre autres au pseudo-Denis, à l'Aéropagite, mais on a choisi ensemble de retenir entre autres la figure de saint François d'Assise, alors qui est très connu du grand public, donc qui naît en 1182 et qui meurt en 1226. C'est presque un des saints les plus populaires de toute l'histoire de l'Église, premier stigmatisé de l'histoire des chrétiens, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de François d'Assise ? En quoi il est vraiment un des grands exemples de ce christianisme intérieur ?
Bien, finalement, il suit l'itinéraire de Paul, à sa façon, dans sa vie, à savoir son chemin de Damas, à savoir que voilà un homme qui est jeune, qui est, je dirais, dans le monde, et qui brutalement va se retourner. Mais c'est un marqueur, encore une fois, je l'insiste, des spirituels chrétiens qui a toujours une rupture. Un moment de retournement. Il passe devant une église et voilà, boum, ça se passe, il entend quelque chose, il voit quelque chose, et là, tout change. Mais François d'Assise est aussi vénéré en Orient, et ça, on le sait moins. On le sait moins. C'est un saint, bien sûr, de l'Église catholique, mais c'est un saint de l'ensemble de l'Église, particulièrement vénéré par les orientaux chrétiens. Donc je parle de François d'Assise comme étant l'une des grandes figures, je dirais, de cette chaîne ininterrompue des spirituels chrétiens de l'Occident, donc de l'Église catholique, à savoir que voilà un homme qui change totalement de chemin, qui va parcourir ensuite tout le chemin de l'homme essentiel, de l'homme intérieur, de l'homme spirituel, à savoir le dépouillement, la perte de l'avoir, pour ensuite la perte de l'ego. Et à partir de ça, et c'est quand j'ai évoqué l'empathie universelle, François d'Assise, parlant aux animaux, tout le monde le sait, mais c'est un exemple qui est extrêmement fréquent chez les spirituels chrétiens. Cette sorte d'oreille universelle, ils entendent tout. Le père Porphyre, pour passer à l'Orient chrétien, qui est aussi un contemporain puisqu'il est mort en 96 ou 17, entendait tout. Le serpent lui parlait, comme François d'Assise, tout. C'est un homme d'ouverture, c'est un homme qui a une oreille qui est amplifiée finalement à l'ensemble du cosmos. Et là, nous ne sommes plus chez les catholiques, chez les protestants, chez les orthodoxes, nous sommes dans une transformation intérieure.
Alors l'autre personnage, l'autre chrétien que vous l'avez cité, c'est Maurice Zindel qui est peut-être moins connu d'un certain nombre de nos auditeurs, donc qui est un prêtre, on va dire un simple prêtre, hein, mystique, suisse, qui est du XXe siècle. Si
tout à fait, il est mort en 73.
Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce... et pourquoi vous avez retenu cette figure ?
Il est, je dirais, l'image même de cette dualité que j'évoquais de l'Église romaine, enfin de l'Église catholique romaine, à savoir, c'est un prêtre, c'est un homme de l'institution catholique, mais c'est un homme qui a vécu pratiquement toute sa vie au placard. Et miraculeusement...
Au placard ou dans la discrétion c'est...
Non, au placard. Au placard, à savoir qu'on l'avait mis de côté. De côté parce que ses propos dérangeaient. Ce n'était pas du tout des propos révolutionnaires, pas du tout, on va en parler. Mais ses propos dérangeaient, je dirais, un ordre normé, qui était surtout l'ordre normé de l'Église catholique des années 50. Donc, il n'a pu en fait avoir de parole libre que les trois dernières années de sa vie. Et ça, c'est intéressant. Comme pour Maurice, comme pour Alexandre Maine, que j'évoquerai tout à l'heure, ces gens-là ne libèrent leur parole que très tard. Puis ils ont un temps de latence, un temps de silence, un temps de retrait ou un temps de mise au placard, parce qu'ils dérangent. Donc Maurice Zindel étant un prêtre suisse, qui a surtout travaillé sur ce qu'il appelle l'évangile intérieur. On est toujours dans ces paradigmes de l'intériorité chrétienne. Et quand il confessait, car il confessait beaucoup, il ne demandait pas une liste de péchés, il demandait simplement « Avez-vous aimé ?» Et Maurice Zindel a été sorti de l'oubli et du placard où on l'avait mis parce qu'il connaissait un certain abbé Montini autour des années 40-45 qu'il avait rencontré à Paris et la relation entre les deux hommes avait été très forte. Le futur pape Paul VI. Et une fois élu pape, Paul VI se souvint de son ami Maurice Zindel, oublié quelque part dans une modeste paroisse suisse. Et il fit appel à lui, mais 3 ans avant sa mort seulement, pour prêcher la retraite des cardinaux à Rome. Et c'est là qu'il est devenu célèbre. Mais c'était 3 ans avant de mourir.
Alors, on continue ce parcours. Vous dites que dans la tradition protestante, dans la tradition de la Réforme, c'est donc aussi une réalité, ce christianisme intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est une réalité ? Est-ce qu'il y a toujours eu des grandes figures aussi spirituelles et mystiques, d'une certaine manière, protestant ?
Alors, il est très difficile de faire court, mais on peut dire que Luther était aussi un mystique. C'est lui qui a traduit le dernier grand mystique catholique du Moyen-Âge. Martin Luther a été l'éditeur de l'Anonyme de Francfort, qui est un anonyme, comme son nom l'indique, mais qui a des plus grands textes de la spiritualité chrétienne. Qui l'a traduit du latin en allemand du 16e ? C'est Martin Luther. Martin Luther était aussi un mystique, à sa façon. Mais donc, cet homme intérieur, il a été aussi au cœur des débats de la réforme. Parce que, au temps de la réforme, il y a eu cette double tentative ou tentation, soit de recréer des églises de type catholique différentes, mais suivant la logique institutionnelle du catholicisme de l'époque, mais également, il y a eu des courants réformés qui étaient très clairement se bâtissaient sur l'homme intérieur et refusaient toute institutionnalisation. Il y a eu un grand débat au XVIe qui n'a jamais cessé, en fait. Le protestantisme est extrêmement divers. Et il a aussi cette double polarité qui le traverse dans son histoire. Et pour en venir à ici et maintenant et aujourd'hui...
Il est traversé par la même tentation, c'est ça, selon vous ?
De recréer des églises instituées. Je dirais qu'à la limite, sous le mot de plaisant, la prieure actuelle des veilleurs, je parle des veilleurs qui sont qu'on appelle souvent le monastère invisible des protestants, qui est une fraternité protestante que je connais bien puisque j'en fais partie.
Fraternité spirituelle des veilleurs.
Voilà. Que je connais bien puisque j'en fais partie à titre œcuménique, n'étant pas protestant personnellement. Mais elle me disait dans un courriel, donc la prieure actuelle des veilleurs récemment, que sur le mode plaisant, que le propos de ce livre n'était surtout pas de créer une église, on en avait déjà beaucoup trop. Mais avant tout de savoir quel était le fil invisible qui reliait toutes ces églises. Et surtout pas une super église.
Alors, avant que vous nous parliez d'un certain pasteur Wilfried Monod, enfin quoi que, allez-y, parlez-en maintenant, et puis je vous poserai ma question, donc, qui est le fondateur donc, de ces fraternités spirituelles des veilleurs. Vous le citez parmi ces figures, selon vous, qui incarnent côté protestant ce christianisme intérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, et du coup nous dire un petit peu plus de cette fraternité spirituelle des veilleurs?
Donc, la logique de la rupture de 1517, à l'époque, a été celle d'une cassure. Donc on a rejeté l'héritage monastique, en premier temps. Donc on a fermé les monastères. Donc on a abandonné toute référence monastique, toute idée de régula du temps de la journée que j'évoquais la fois précédente. Vers 1850, on voit réapparaître dans l'espace de la réforme ce besoin de se rythmer la journée par des temps de prière. Et vont apparaître les diaconesses de Rueil et en 1923, la fraternité spirituelle des veilleurs fondée par Wilfried Monod, le père de Théodore Monod, qui lui par contre est peut-être plus connu que son père. Mais en fait, ils étaient tous les deux veilleurs. Alors, cette fraternité spirituelle des veilleurs est donc une fraternité protestante. On est bien chez les protestants. Mais avec une référence en boucle au père du désert, à la pratique méditative des pères du désert. Là aussi, la frontière est subtile. Et ils ont réintroduit, enfin, Wilfried Monod a réintroduit la règle monastique, à savoir un ternaire de temps de prière dans la journée, matin, midi et soir, avec le vendredi un temps plus accentué sur le temps de la passion. Mais chaque veilleur a un lien invisible avec son frère ou sa sœur veilleur, et trois fois par jour se met dans le temps des béatitudes, qui est l'axe vertébral du christianisme.
Combien de personnes font partie de ces fraternités ?
Encore une fois, les chiffres sont estimatifs. On va dire qu'en France, à l'heure d'aujourd'hui, nous serions autour de 400 veilleurs.
Pour finir, donc, la tradition orientale. Alors, vous nous dites que dans la tradition orientale, ça a toujours existé. Et puis, à vous lire entre les lignes, on a presque l'impression que vous regardez cette tradition, j'allais dire pas avec envie, mais avec admiration, comme si elle avait été particulièrement attentif à ce christianisme intérieur. Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit en vous lisant ou pas?
Elle est plus proche, et ça, c'est assez objectif et documenté, de l'esprit des origines. À savoir que, par exemple, la liturgie n'a pas bougé d'un poil depuis 17 siècles. Depuis Saint Jean Chrysostome, elle n'a jamais bougé. Et ce qui est frappant pour un occidental...
C'est pas parce qu'une liturgie n'a pas bougé que...
Non, mais ce qui caractérise le monde oriental, c'est la beauté. Et je cite Dostoïevski, c'est la beauté qui sauvera le monde. Et quand on rentre dans le monde oriental, on rentre dans le monde de la beauté, dans le monde de l'icône, dans le monde du reflet du divin. Tout est magnifié. C'est pour cela que les proto-russes, enfin ceux qui étaient avant les Russes d'avant la christianisation de la Russie, quand ils sont arrivés à Constantinople autour de l'an 900, et qu'ils avaient le choix à faire entre Rome et Constantinople pour christianiser la Russie, on dit à Sainte-Sophie, c'est le ciel sur la terre. C'est cette image de la beauté qui est, je dirais, pour un occidental, la première. Et à titre personnel, je la partage tout à fait, car j'ai découvert l'Orient chrétien du côté de mes 20 ans, en Grèce, à Mystra, sur des fresques byzantines. Cette beauté qui peut sauver le monde est encore plus, je dirais, magnifiée par l'icône de Roublev, la Trinité, que maintenant on trouve souvent dans les temples protestants, mais également dans les églises catholiques. Or, on ne sait pas que cette icône a été écrite, on dit écrite dans la tradition orthodoxe et non pas peinte, a été écrite au pire moment de l'histoire russe, au moment de la destruction de la Russie par les Mongols. Des fleuves de sang, des fleuves de massacre. Et pendant ce temps-là, un moine, André Roublev, écrivait cette icône fabuleuse, merveilleuse, irradiante de la Trinité.
Donc, vous avez répondu à ma question. Pour vous, donc il y a quelque chose donc qui s'est perpétué avec peut-être plus de constance. Si vous deviez nous citer pour finir dans ce panorama, vous vouliez parler d'Alexandre Maine. Alors, rappelez-nous qui est cet Alexandre Maine, pas très connu, peut-être une fois de plus.
Non, pas très connu, mais pour finir quand même sur les marqueurs de l'orthodoxie, il n'y a pas que la beauté. Il y a aussi, je dirais, l'homme ascétique et il y a l'homme de la déification, qui est le propre de l'homme intérieur, qui est l'apport, je dirais, la touche orientale qu'apporte l'orthodoxie à l'homme intérieur. La déification, la théosis en langage byzantin. Donc, Alexandre Maine, pour répondre à votre question, lui aussi, destin tragique. Et il n'a eu que 3 ans pour parler, comme Maurice Handel. Vous voyez les parallélismes étranges. Eh bien, Alexandre Maine était un juif, mais né à la pire époque de la Russie contemporaine, en plein dans l'époque stalinienne. Il va grandir dans l'atmosphère de terreur physique. On a éliminé l'Église, tenté d'éliminer le christianisme en Russie. Et autour des années 40, c'est un jeune gamin à l'époque, en se promenant, là aussi, retournement, François d'Assise, etc. Enfin, le même mécanisme, hein, ces marqueurs permanents des spirituels chrétiens. Il est retourné et il se convertit à la pire époque du christianisme, donc autour des années 45. En pleine période stalinienne. Et il va devenir prêtre. Donc, ça veut dire mis de côté, marginalisé, surveillé par la police soviétique. Et il n'aura que 3 ans pour parler. De 1988, 89, 90. Car il sera assassiné à coups de hache et probablement par les services secrets soviétiques.
Voilà.
Et... Alors, son message à lui, donc Alexandre Maine, et le titre de sa dernière conférence à Moscou de 1990 est très fort, le 10 septembre 1990. Dernière et ultime conférence, quand il sera assassiné donc le lendemain à 6h du matin. Sa dernière conférence s'appelait étrangement « Le christianisme ne fait que commencer ».
Voilà, merci beaucoup Gérard Fauman. C'est pas la fin de cette émission. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, Le christianisme intérieur, une voie nouvelle, point d'interrogation, aux éditions Fidélité. On fait une deuxième pause et on vous retrouve pour finir ce parcours, puisque cet homme, ce chrétien intérieur, à vous lire, cette transformation n'est pas sans conséquences. Entre autres, vous dites que c'est quelqu'un en général qui interpelle les églises dans lesquelles il se trouve. Vous dites que c'est un chrétien qui devient d'une certaine manière un peu transconfessionnel. Et puis, vous faites pas un certain nombre de ponts, mais en tout cas vous vous interrogez sur la place du New Age aujourd'hui, disant qu'il y a peut-être quelque chose dans ce New Age qui dit cette aspiration à un christianisme intérieur.
Nous te bénissons, nous t'adorons.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission sur le christianisme intérieur. Si vous nous prenez en cours de route, donc, nous sommes avec Gérard Fomerand. Je rappelle donc, qu'il est historien du christianisme et conférencier, auteur donc, d'un ouvrage qui s'appelle « Le christianisme intérieur, une voie nouvelle, point d'interrogation » aux éditions Fidélité. Alors, on a compris votre propos. Je voulais vous poser une question sur l'accompagnement spirituel. Puisque ce christianisme intérieur, à vous entendre, en fait, c'est une expérience donc, commune à toutes les grandes confession chrétienne. C'est une expérience aussi que peut faire, à vous entendre aussi, un spirituel, en fait, qui se serait mis en chemin et qui chercherait honnêtement le Christ. Pas de christianisme intérieur sans accompagnement intérieur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, quel serait votre regard là-dessus, le regard de l'orthodoxe sur l'accompagnement spirituel ?
Je reviens à Matthieu 23. Le principal accompagnant, le grand accompagnant, c'est le Christ. Car nul, et c'est Dieu, car nul ne connaît Dieu sans passer par la personne Christ. C'est lui le grand thérapeute, c'est le grand accompagnant. Et dans la tradition chrétienne, effectivement, c'est originel et ça a toujours existé. Je dirais qu'il y a une dimension thérapeutique de l'évangile qui fait qu'on ne peut pas grandir sans être accompagné, d'une façon ou d'une autre. Alors, bien sûr, le nom de l'accompagnant va être divers, suivant les traditions. On va l'appeler frère, on va l'appeler père, on va l'appeler sœur, on va l'appeler de différentes façons. Mais c'est une constante de la tradition chrétienne que d'être accompagné, au moins le temps que grandisse l'homme intérieur.
Alors, quelle est la vertu de cet accompagnement et qu'est-ce qui fait un bon accompagnateur spirituel ? Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs là-dessus ?
La grande vertu de l'accompagnant, et ça toute tradition confondue et toute histoire confondue, c'est le discernement. Savoir discerner si l'on est dans l'erreur ou dans les présupposés narcissiques ou dans des dérives sous bêtement psychiatriques, car ça peut être ça. Ça peut être souvent ça, d'ailleurs. L'accompagnant spirituel est là, je dirais, non pas pour ordonner, mais pour indiquer des fléchages, des sens, des orientations. Alors, le problème de l'accompagnant spirituel, c'est qu'il peut se normer. Et là, ça peut effectivement aboutir à des dérives.
D'accord, qu'est-ce que vous diriez ? C'est quoi les bons critères pour le choix d'un accompagnateur
Encore une fois, le discernement. Son propre discernement. Vous savez, quand on connaît bien le monde des églises, quand on connaît bien le monde de la spiritualité chrétienne, on sait qui accompagne et qui n'accompagne pas. On le sait.
Vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont doués pour ça ou qui sont formés pour ça ?
Écoutez, je ne veux pas jouer au vieux routier des monastères,
mais, si, je vous en prie.
Je dirais les personnes les moins connues sont les plus grandes dans l'ordre de l'humilité et donc dans l'ordre de l'accompagnement.
Voilà, le message est clair. On vous contredira pas sur ce point, en tout cas. Vous dites que dans cette dernière partie de l'émission, je voulais parler des fruits de l'accompagnement, les fruits de ce christianisme intérieur. Puisqu'à vous lire, ce chrétien intérieur, il a un certain nombre de caractéristiques. Alors, on l'a cité au début de cette émission, c'est un homme de silence, c'est quelqu'un qui dégage une certaine bienveillance, compassion, une paix, une certaine liberté intérieure. Mais plus que ça, vous dites aussi que souvent, c'est quelqu'un qui interpelle les églises, les différentes églises chrétiennes, comme si, à vous lire, il était un peu trop à l'étroit, ou en tout cas, il était un peu trop libre. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Il y a une liberté qui est d'ailleurs une liberté évangélique. Encore une fois, je recite l'apôtre Paul. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés, que nous restions libres. L'homme intérieur, est libre. Donc, il peut déranger. Et il dérange souvent. J'évoquais la parole de Maurice Hennel ou celle d'Alexandre Maine. Mais c'est une constante dans l'histoire des spirituels chrétiens. C'est qu'ils interpellent et quelque part, ils dérangent leur établi. Prenez François d'Assise. François d'Assise apparaît quand ? Au moment où l'Église catholique romaine est en pleine décomposition, en pleine déconfiture, en pleine décomposition morale. Et là, il apparaît avec une parole de liberté. Et cette parole-là, au moins pour un temps, a fait que l'Église catholique est redevenue dans ce qu'elle était à l'origine, à savoir une Église porteuse de paroles d'Évangile.
Vous dites entre autres que souvent il a une originalité qui est une sorte d'innovation prophétique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples ?
Écoutez, par exemple, ils sont innombrables. Je dirais chaque spirituel est un prophète. Non pas au sens qu'il ne prévoit pas l'avenir, mais il découvre le présent. Quand vous voyez un Dietrich Bonhoeffer, qui est un grand spirituel luthérien, qui a été exécuté le 10 avril 45 sur ordre spécial et ultime d'Hitler, pour fait d'atteinte à l'ordre nazi, eh bien, cet homme-là a eu cette parole paradoxale, comme le sont souvent les spirituels chrétiens, que peut-être il se pourrait que dans l'avenir, le Christ soit le Seigneur des non-croyants.
Et alors ?
Ça veut dire qu'en fait, le christianisme ne fait que commencer. Que ce christianisme que l'on croit malade, que l'on croit désuet, surtout en Europe, car là nous sommes dans une logique européenne, ce n'est pas vrai du tout, ni en Afrique, ni en Amérique, ni en Asie. Mais parce que nous sommes toujours très européocentrés. Nous pensons que ce qui se passe en Europe se passe dans le monde. Ça ne se passe qu'en Europe. Et effectivement, il y a une crise des églises chrétiennes, toutes catégories confondues, en Europe. Ce qui n'empêche pas ce christianisme intérieur de renaître et de revenir à la surface, même en Europe.
Alors vous dites que c'est quelqu'un en général qui interpelle les institutions. C'est pareil. Est-ce que vous avez
c'est une constante dans l'histoire. Dans l'histoire, il y en a.
Vous l'avez dit un peu rapidement avec Saint François d'Assise, mais est-ce que vous avez des exemples plus récents?
Plus récents, je parlais de Zindel. Hein. Zindel qui a été au placard toute sa vie. Alexandre Maine qui finit tué à l'âche. Probablement par les services soviétiques. Et très souvent, je pense à tout le travail qu'a fait par exemple le père Sophroni en Angleterre, qui était un prêtre orthodoxe russe exilé en Russie, qui était un travail prophétique d'ouverture œcuménique qui est remis en cause actuellement. Parce que l'église orthodoxe russe, pour ne pas la citer, est elle-même, je dirais, très ambiguë. C'était à la fois une église des martyrs, car c'était une église persécutée, pour redevenir maintenant quasiment une église impériale, voire impérialiste.
Alors, je voulais vous poser une question, c'est presque une question piège, sur les évangéliques. Vous en parlez plusieurs fois dans votre ouvrage. Donc, pour rappel, les églises évangéliques, donc c'est ce qu'on appelle les églises du réveil. Pour faire court, quoi, c'est des églises pour le début qui date du 17e, et puis après, il y a eu le 19e, puis au 20e.
Les racines du réveil de type évangélique correspond en fait à la réforme.
Côté protestant.
On est chez les protestants. Je dirais la sensibilité évangélique apparaît également en 1517.
D'accord, mais ceux qu'on appelle aujourd'hui les évangéliques...
Ceux qu'on appelle actuellement les évangéliques sont d'abord très nombreux, ça il faut le savoir. Ce sont presque le tiers des chrétiens.
500 millions de chrétiens,
on dit entre 500 et 600, on ne sait pas très bien. Car c'est une sorte de déferlante, notamment en Amérique.
Alors, plus en plus nombreux d'ailleurs.
Plus en plus nombreux.
Donc c'est un protestantisme, on va dire très proclamatif, très confessant, très missionnaire. Est-ce que vous y voyez dans ce protestantisme aussi une forme de christianisme intérieur? Parce qu'à vous lire aussi, le propre du christianisme intérieur, c'est que c'est quelqu'un souvent qui réveille. Le réveil est souvent signe de ce christianisme intérieur.
Alors c'est l'une des pierres apportées par la réforme à l'édifice de l'homme intérieur. Mais c'est une pierre initiale, le réveil. Car finalement, la réforme c'est un réveil. Quant aux évangéliques, c'est un réveil contemporain. Et par ailleurs, ce qui les caractérise, c'est l'insistance extrême qu'ils donnent à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème dans l'évangile de Jean, de renaître d'eau et d'esprit, une deuxième naissance, la nouvelle naissance. Ils insistent énormément là-dessus. Et en ce sens, sur ce point-là, on peut considérer que c'est une pierre apportée actuellement, pas les évangéliques, et le propos pourra surprendre certains catholiques ou orthodoxes. Je pense que c'est une pierre rapportée, avec toutes les limites et les contradictions de ces églises évangéliques, c'est une pierre rapportée à l'édifice de l'homme spirituel.
Alors, vous nous parlez aussi, à un moment, vous parlez dans votre livre du New Age. Vous dites, le New Age, une inversion du christianisme intérieur. Alors, on sait qu'il y a un certain nombre d'auditeurs, enfin, souvent, l'Ariège est cité comme une terre où il y a pas mal de gens qui sont attirés par le New Age. On sait que parmi nos auditeurs, peut-être il y en a qui écoutent cette émission, enfin, en tout cas, on l'espère, et qu'ils n'hésitent pas, d'ailleurs, à se manifester, à dire ce qu'ils pensent de cette émission. Voilà, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans le New Age ou qui sont tentées par le New Age, enfin, attirées, pardon, par le New Age. Pourquoi vous avez ce titre, une inversion du christianisme intérieur? C'est-à-dire, vous reconnaissez qu'il a vraiment quand même une recherche spirituelle. Qu'est-ce que ça dit de cette recherche?
Et le New Age est aussi paradoxal. Toutes les spiritualités sont paradoxales. C'est une réponse, plutôt une attente face à l'écroulement des réponses d'Église. C'est une attente spirituelle indéniable. Alors, le New Age essaye de chercher un peu à droite, à gauche, ce qui peut répondre à ce mal-être spirituel généré par des sociétés qui sont en fait des sociétés totalitaires light. à savoir le totalitarisme libéral. On parle beaucoup du fanatisme islamique, mais il y a aussi un fanatisme idéologique économique. C'est le même. Finalement, nous sommes dans une société, je dirais, de culturellement correcte, religieusement correcte, et qui castre, et donc qui crée un besoin. Et le New Age répond à ce besoin, ou peut répondre à ce besoin. Mais je dis que c'est une inversion du christianisme intérieur, car la tendance naturelle du New Age, mais c'est pas récent, parce qu'en fait, le New Age était ce qu'était la théosophie au 19e. C'est un nouveau visage de la théosophie, enfin, au plan historique. Hein. Le New Age, donc, est un syncrétisme avant tout, à savoir qu'il essaye d'échapper au carcan d'église en métissant le propos avec des apports d'autres traditions religieuses comme le bouddhisme, l'hindouisme, voire l'islam dans sa version soufie. Mais comme le disait le Dalai Lama dans des propos qui sont souvent intéressants, ce n'est pas possible, viable de donner une tête de mouton à un yak ou vice-versa. À savoir qu'il y a un ADN chrétien, il y a une histoire chrétienne, il y a une histoire qui est plurimillénaire, parce qu'en fait elle dépasse même le temps du christianisme, car elle est ancrée dans la mémoire hébraïque. Cette mémoire-là a constitué, je dirais, non pas une identité qui norme, qui ferme, qui enferme, qui limite, mais un homme nouveau, finalement, pour revenir à l'origine de nos propos, cet homme intérieur. Cet homme intérieur, il est dans une chaîne d'or qui remonte aux apôtres, qui remonte aux prophètes, et qui, dans une sorte de méta-histoire, devient l'héritier des temps du premier Adam. On est dans une chaîne. On n'est pas dans plusieurs chaînes, on est dans une chaîne, on est dans un lignage. Et ce n'est qu'en étant dans un lignage que l'on a une filiation, une parenté, une paternité, une filiation surtout.
Donc vous dites pas d'homme intérieur sans christianisme dans ces cas-là?
Non, l'homme intérieur appartient à toutes les traditions. Mais nous, dans notre histoire chrétienne, nous appartenons à une tradition bien spécifique, qui est la tradition hébraïco-chrétienne, qui est soclée sur la Bible, sur ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau, sur l'Écriture, sur les psaumes, enfin, sur toute une histoire.
Donc on pourrait imaginer qu'il y a une tradition, on va dire, intérieure du New Age. Enfin, pourquoi vous dites que c'est dans ces cas-là, c'est une inversion ?
Justement, le New Age n'a pas cette histoire-là, n'a pas ce lignage-là. C'est ça son problème. C'est que c'est une identité sans mémoire. Enfin, à mémoire plurielle, et non pas à mémoire d'héritage filiale. C'est un peu ça le problème du New Age, à savoir qu'il est fondamentalement un patchwork, un composé. Donc il a une tendance naturelle à se décomposer. Quand je vois apparaître des chamans toltèques venant de Paris, faisant du chamanisme, moi qui connais bien l'Amérique latine et notamment l'Amazonie, je souris.
Pour finir, vous parlez des béatitudes. Alors, à vous lire, c'est l'évangile de l'homme intérieur.
C'est l'évangile de l'évangile. C'est l'évangile dans l'évangile. À savoir que les 8 béatitudes que vous connaissez comme moi, je renvoie donc à Matthieu 5, à l'évangile de Matthieu, les 8 béatitudes. Alors, il est pour moi toujours bouleversant que d'entendre dans la liturgie orientale orthodoxe chanter et psalmodier les béatitudes en reflet de ce que font les veilleurs 3 fois par jour, qui récitent eux-mêmes les béatitudes. À savoir que...
Les veilleurs, rappelez pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, c'est donc cette fraternité...
Ce monastère invisible de protestants, donc les veilleurs protestants, qui 3 fois par jour se remettent dans le temps des béatitudes, dans le temps de la montagne intérieure, d'où le Christ enseigne, non pas à ses apôtres, pardon, mais à ses disciples. À savoir qu'on est bien au-delà du cercle, je dirais, qui aurait pu être un cercle fermé, les 12. Non, il enseigne ses disciples, à savoir tout le monde. Mais il leur enseigne quoi ? Les béatitudes. Et les béatitudes sont dans la tradition chrétienne l'échelle de la montée sur la montagne. Jésus gravit la montagne, s'étant assis, là je cite Matthieu 5, il enseigna et ses disciples s'approchèrent de lui. Et il leur dit les 8 béatitudes.
Eh ben, merci beaucoup, Gérard Fomerand, d'être venu ce matin nous parler donc de votre ouvrage et de ce christianisme intérieur. Le christianisme intérieur, une voie nouvelle aux éditions Fidélité. Je rappelle aussi, enfin, je l'ai pas dit, donc je le dis, le 6 décembre prochain, vous donnerez une conférence à l'espace culturel protestant à Toulouse, aux environs de 20h. Le 6 décembre prochain, à l'espace culturel protestant à Toulouse. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Don sur Radio Présence, c'est encore vous qui en parlez le mieux.
J'espère que votre radio, et j'en suis convaincu, fait du bien.
Je trouve qu'il y a une équipe à Radio Présence qui est dynamique, qui est sympathique comme tout.
Je dirais simplement que c'est une radio très importante de la région et très enrichissante pour énormément de personnes et que c'est très important de la soutenir puisque voilà, elle est tout simplement géniale.
Parce que ça fait des années que j'écoute Radio Présence, que vous m'avez d'ailleurs aidé à sortir de l'abîme et je souhaite que cette radio continue à vivre.
J'ai cette image aussi d'une radio qui diffuse de l'espérance, ce je ne sais quoi qui change le monde. Ça ne se touche pas, c'est comme une onde, un parfum. On ne le voit pas, on ne l'attrape pas, et pourtant, ça change tout.
Les 25 et 26 novembre,